Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors des enjeux qui arpentent aujourd'hui les terres rares.
Et oui, ces terres rares en fait, des métaux qui font leur entrée sur la scène géopolitique puisque la Chine menace depuis la semaine dernière de restreindre ses exportations de ce matériau vers les États-Unis. Nouvelle étape de la guerre commerciale et signe aussi de l'importance croissante prise par ces métaux donc dans la transition énergétique. Un test peut-être pour de nouvelles géodépendances. On voit ça avec vous, Emmanuel H. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes économiste à l'IFPEN, Énergie Nouvelle, directeur de recherche à l'IRIS et co-directeur avec Samuel Carcanag du numéro 113 de la revue internationale et stratégique, c'est géopolitique de la transition énergétique. Vous y avez écrit deux articles au moins. Alors, ces terres rares, donc métaux difficiles à séparer des roches qui servent à beaucoup d'applications, des lasers, des téléphones portables, mais aussi et surtout des moteurs électriques, des éoliennes, en fait, un peu tout ce qui sert à la transition énergétique. D'abord, est-ce qu'il pourrait y avoir des énergies renouvelables en masse sans elles, ces terres rares?
Bah écoutez, généralement, on dit que les terres rares, ce sont les vitamines des technologies modernes et notamment des technologies de la transition énergétique. Donc, elles sont plutôt essentielles, en fait, de par leurs propriétés de conductivité à toutes les nouvelles technologies, en fait, de la transition énergétique. Donc, elles sont essentielles. Et donc, la problématique commerciale qu'il y a à l'heure actuelle avec Pékin est très importante, notamment pour toutes les technologies de la transition et pour notamment les technologies de la catalyse, de la batterie et du véhicule électrique.
Et alors, la première chose peut-être que révèle cette affaire, c'était connu, mais ce qu'elle souligne, c'est l'importance qu'a pris la Chine sur ce marché, ce qui n'a pas été le cas tout le temps, mais depuis 20 ans seulement, c'est vraiment le producteur et le consommateur hégémonique, on pourrait dire.
Oui, tout à fait. En fait, la Chine, en termes de production, elle représente, alors, on a différents chiffres, hein, parce que ça dépend si vous vous placez plutôt en amont ou au milieu de la filière, hein, c'est 70% des minerais et c'est 90% des oxydes de terres rares. Ce qu'il faut voir, c'est que environ 30% de ces terres rares chinoises, elles vont aux États-Unis. Et par contre, les États-Unis, eux, ils sont dépendants à plus de 80% en fait des terres rares chinoises. Après, lorsqu'on se place au niveau des réserves, la Chine ne possède, j'ai envie de dire, que 37% des réserves de terres rares. Et juste après, vous avez le Brésil, le Vietnam, qui font à peu près 36% des réserves de terres rares également. Ça veut dire que les réserves sont plutôt bien, réparties au niveau de la planète, et quelque part le monopole de Pékin sur les terres rares, il se trouve de fait parce que une grande part de l'industrie en fait du raffinage se trouve en terre chinoise.
Et alors qu'est-ce qui fait justement que la Chine a voulu conserver cette industrie? C'est que c'est un marché qui est trop complexe technologiquement pour les autres, qui a des coûts d'entrée trop importants, que elle possède quand même la majorité de ses gisements facilement exploitables. Qu'est-ce qui se passe dans la configuration?
Vous avez une raison de coût, vous avez une raison environnementale qui est assez évidente, hein, parce qu'environnement parlant, en fait, c'est assez polluant en fait de produire des terres rares. Et puis vous avez une raison industrielle qui est assez intéressante, c'est que la Chine, elle a pensé son introduction sur le marché des terres rares dès les années 1980, et elle a surtout intégré l'ensemble de la filière, hein, c'est-à-dire de la terre rare, c'est-à-dire du minerai jusqu'à la technologie, puisqu'elle est leader notamment dans les technologies à la fois éoliennes et à la fois solaires. Et la Chine, ce qu'il faut rajouter, c'est que sa principale problématique à l'heure actuelle, c'est quand même qu'elle est aussi l'un des principaux consommateurs mondial de ces terres rares, et que dans une dizaine d'années, elle sera même sûrement avant, elle sera importatrice nette de terres rares. Ça veut dire que, quelque part, le conflit commercial qu'il peut y avoir avec les terres rares, avec les États-Unis, elle n'a peut-être pas intérêt non plus à augmenter de manière assez massive les prix, puisqu'elle essaie de rationaliser en interne son industrie et également sa consommation.
Et alors, elle est même, paraît-il, devenue également première importateur mondial de terres rares assez récemment.
Oui. Tout à fait. Cette problématique, si vous voulez, les terres rares, il y a 17 terres rares. Il y a des terres rares légères, il y a des terres rares lourdes. À l'heure actuelle, en fait, le conflit commercial avec les États-Unis se situe plutôt sur les terres rares lourdes qui sont utilisées dans l'industrie militaire américaine, notamment les lasers, les sonars. Et pour tout ce qui est terres rares légères, elle est plutôt importatrice.
Et alors justement, dans ce nouveau front de la guerre commerciale avec les États-Unis, là, comme l'appelle CNN, est-ce qu'il faut prendre déjà ces menaces chinoises au sérieux? Parce que comme vous dites, elles pourraient en subir le contre-coup. Et quels effets elles pourraient avoir? Il y avait un consultant qui écrivait pour National Defense qui citait surtout des risques pour les chaînes de montage d'automobiles, les smartphones, les ordinateurs, mais peut-être pas le militaire, comme vous l'évoquez.
Bah, écoutez, en fait, pour tout vous dire, on ne sait pas encore exactement ce que la Chine veut faire. On ne sait pas exactement sur quel marché elle veut imposer des restrictions commerciales, et on ne sait pas combien elle veut le faire. Donc c'est très difficile. Personnellement, tout ce que j'avais lu, moi, concernait plutôt les terres rares lourdes, c'est-à-dire plutôt les technologies sonar. Mais bien évidemment, si ça touche les technologies plutôt du véhicule électrique, là, ça serait beaucoup plus inquiétant, notamment pour tout ce qui est diffusion, notamment du véhicule électrique aux États-Unis.
Ouais, et dernière chose concernant l'hégémonie de la Chine, pour un marché où, comme vous l'avez dit, il y a des gisements qui sont assez disséminés pour une production qui en tonnes n'est pas énorme, mais se vend très cher et qui est raffinée et finalement réutilisée dans des produits de très haute technologie. Est-ce que la Chine crée des dépendances? Est-ce qu'elle-même se met en surdépendance par rapport à un marché de haute technologie? Comment est-ce qu'il faut voir ça?
Bah écoutez, alors effectivement, il y a des alternatives en termes de marché. Hein. Si vous mettez par exemple la place des États-Unis, on peut tout à fait imaginer des alternatives commerciales, par exemple en provenance d'Australie, en provenance du Brésil ou en provenance du Vietnam. Le problème, c'est que ces alternatives, en fait, elles vont prendre du temps. Hein. Il faut créer son site de production, il faut créer le site de raffinage, et bien évidemment, il faut aussi investir. Ce sont des marchés qui sont très particuliers. Hein. Ce sont des marchés qui sont portés par la demande, avec des augmentations très brutales de la demande. Hein. Si vous prenez la période, par exemple, 2010-2012, on a eu une augmentation de x4 des prix, et après les prix sont retombés à des niveaux plutôt bas, et ce type de marché n'incite pas à l'investissement à long terme vu qu'elles sont excessivement cycliques. Donc si vous voulez, c'est pour ça que ces alternatives en fait sont particulièrement difficiles à obtenir.
Et plus largement, là on parle des terres rares, donc terres rares, je le rappelle, utilisées notamment dans les machines à extraire les énergies renouvelables, on pourrait dire, hein, qu'on pense aux éoliennes. Est-ce que vous feriez un parallèle entre la prééminence chinoise sur le marché des terres rares et puis sa primauté dans la transition énergétique, comme vous l'expliquez assez bien dans un article, justement en posant la question de la Chine, futur leader écologique, ou je ne sais plus quelle était l'expression, pardonnez-moi.
Oui. Tout à fait, c'était futur leader écologique mondial. Si vous voulez, la transition énergétique, d'un point de vue global, elle redéfinit la notion de puissance. Alors, à travers au moins deux niveaux, puissance au niveau des ressources. C'est-à-dire que la transition énergétique va demander des ressources supplémentaires, alors que ce soit des terres rares, qui par définition, elles ne sont pas rares, mais qui sont des marchés plutôt particuliers, mais également des métaux qu'on dit stratégiques, hein, par exemple le lithium, le cobalt, qui vont rentrer notamment dans les véhicules électriques, mais également dans les aimants permanents qui alimentent les éoliennes, etc. Mais également des métaux de structure, c'est-à-dire qu'un métal comme le cuivre est extrêmement demandé dans la transition énergétique, notamment dans toutes les questions de raccordement au réseau électrique. Donc vous avez cette dimension ressource de la puissance qui est redéfinie dans la transition énergétique. Vous avez également une dimension technologique. Pourquoi ? Parce que la transition énergétique est avant tout une transition technologique. On le voit avec les technologies de la transition énergétique sur le véhicule électrique, mais également sur les éoliennes et les panneaux solaires. Oui. Et puis on a aussi une géopolitique des réseaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous avez aussi une redéfinition des territoires. C'est-à-dire que cette transition énergétique, elle redéfinit toute la géopolitique de l'énergie.
Et de ce point de vue-là, en un mot, ça suffirait, ces trois paramètres importants, à placer la Chine comme effectivement leader d'un futur monde vert, ou alors il y a de réels concurrents comme l'Inde, dont on voit qu'il est le premier producteur aujourd'hui de panneaux solaires low cost, par exemple.
Alors, oui, la Chine est extrêmement bien placée sur les trois volets dont je viens de vous parler, c'est-à-dire les ressources, les technologies et les réseaux. L'Inde, oui, alors l'Inde, on en parle beaucoup, effectivement, elle investit une dizaine de milliards dans les énergies renouvelables. Hein. Si vous faites une comparaison, la Chine investit autour de 100 milliards quand l'Inde investit autour de 10 milliards. Donc vous avez quand même un rapport à 10. Ils ne sont absolument pas sur les mêmes créneaux technologiques. Là où la Chine, elle détient environ 30% des capacités mondiales de panneaux solaires et d'éoliennes, l'Inde rentre par le low cost sur les panneaux solaires. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, le seul pays qui a véritablement une industrie de la transition énergétique, c'est la Chine. L'Inde est encore un tout petit peu loin derrière.
Et ben oui, comme vous l'expliquez bien, c'est une compétition aussi pour la haute technologie. On renverra évidemment sur le site à ce numéro de la RIS numéro 113, géopolitique de la transition énergétique. Merci beaucoup Emmanuel H. et bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci,
bonne journée.